Il neige depuis une semaine. Près de la fenêtre, je regarde la nuit et j'écoute le froid. Ici, il fait du bruit. Un bruit particulier, déplaisant, donnant à croire que le bâtiment, pris dans un étau de glace, émet une plainte angoissante, comme s'il souffrait et craquait sous l'effet de la rétraction. À cette heure, la prison est endormie. Au bout d'un certain temps, quand on s'est accoutumé à son métabolisme, on peut l'entendre respirer dans le noir comme un gros animal, tousser parfois, et même déglutir. La prison nous avale, nous digère, et recroquevillé dans son ventre, tapis dans les plis numérotés de ses boyaux, entre deux spasmes gastriques, nous dormons et vivons comme nous le pouvons. Je voudrais tant trouver le sommeil, ne plus entendre les rats, ne plus sentir l'odeur des hommes, ne plus écouter l'hiver au travers d'une vitre, ne plus devoir manger du poulet brun bouilli dans des eaux grasses, ne plus risquer d'être battu à mort pour un mot de trop ou une poignée de tabac, ne plus être contraint d'uriner dans le lavabo parce que, après une certaine heure, nous n'avons plus le droit de tirer la chasse d'eau. Fermer les yeux. Dormir. C'est le seul moyen de sortir d'ici, de laisser les rats derrière soi.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Emprisonné depuis 2 ans à la prison de Montréal, Paul Hansen y partage sa cellule avec un terrifiant Hells Angel que, doué pour écouter, il a fini par apprivoiser. Chaque nuit, ses morts bien-aimés le visitent et l'aident à démêler les fils embrouillés de sa vie. Né à Toulouse d'un père danois, doux pasteur ayant perdu la foi mais devenu accro aux jeux de hasard, et d'une mère gauchiste suprêmement belle, exploitant un cinéma d'avant-garde, Paul Hansen a fait sa vie au Canada où il est devenu gardien et homme à tout faire de l'Excelsior, une résidence dont il entretient la machinerie complexe et où il prend également soin des résidents vieillissants. Sa compagne, Winona, indienne algonquine, pilote d'un petit hydravion, lui a fait aimer les paysages glacés du Grand Nord et l'aide à supporter les changements insidieux que les temps nouveaux apportent à la vie de l'Excelsior. Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. Nouveau roman du Toulousain Jean-Paul Dubois, paru à l'Olivier, est peut-être bien le plus beau. Son héros, comme toujours prénommé Paul, est un taiseux dont la bienveillance envers les failles des humains de bonne volonté s'accompagne d'une révolte jamais entamée envers la méchanceté et la bêtise satisfaite des autres. Obsédé, comme tous ses prédécesseurs, par les objets dont il n'a de cesse de comprendre le fonctionnement et les histoires secrètes des lieux où il se rend, Paul Hansen revisite sa vie entre les quatre murs de son étroite cellule. Il se remémore ainsi son séjour à Skagen, au Danemark, chez les pêcheurs de plis, et dans le nord canadien, où l'amiante s'extrait à coups de dynamitage et empoisonne tranquillement, sol et vivant. Il songe souvent à la beauté de l'orgue Hammond B3 et à la légèreté en vol du monomoteur Beaver DHC2. Et nous autres, lecteurs, le suivons partout, dans cette histoire qui déchire le cœur et console en même temps. Bonsoir Jean-Paul Dubois.
Bonsoir.
Nous retrouvons avec bonheur votre Paul, toujours le même et à chaque fois différent. Est-ce que pour vous, c'est un axe d'écriture essentiel qui vous permet de vous lancer dans un nouveau récit, dans une nouvelle histoire, avec la sécurité de voyager en compagnie, j'allais dire de votre double de papier, mais en tout cas de ce personnage qui vous accompagne depuis si longtemps?
Je crois que vous avez tout deviné, tout dit. Oui, bien sûr, c'est très facile parce que c'est la même voix. Plutôt que de faire des livres, moi je les entends et je les filme en même temps. Donc c'est la voix off qui va raconter. Moi j'adore les films des Goyon, des premières, des débuts comme ça où le froid a une importance, où cette voix va accompagner. On retrouve ça dans une grande quantité de films qui démarrent justement par une narration. Et la voix est peut-être l'élément le plus important, c'est l'élément qui va précéder l'image. Vous arrivez comme ça dans une histoire portée, Et l'épaule de tous mes livres porte toujours cette même histoire. Elle la raconte aux autres. Moi, je la connais. C'est un peu ma voix. C'est ma voix. Mais c'est quelqu'un de très familier, de sécurisant, comme vous l'avez dit. J'avais jamais pensé à ça. Mais c'est sans doute une sécurité de savoir qu'on va retrouver ce même timbre.
Et très souvent, dans vos livres, Jean-Paul Dubois, il y a cette histoire qui se déroule dans des grands paysages aux États-Unis ou au Canada. Est-ce que ça vous permet de faire des vies plus augmentées, j'allais dire, que certaines vies qui se déroulent en France? Je pense à une vie française où il y avait quand même une notion d'étouffement dans cette famille, alors qu'on a l'impression que lorsque vous écrivez sur des personnages qui déambulent aux États-Unis, au Canada en l'occurrence pour celui-ci, pour ce Paul-là, ça permet de respirer plus amplement.
Une vie française, c'était du cinéma carré, quoi. Là, on est en scope, parce que le monde le veut comme ça, parce que ces gens ont d'abord des destins beaucoup plus larges, des vies beaucoup plus larges. Ça part de l'extrême nord du Danemark, après on passe par Toulouse, après vous passez par Seth Formines, qui est un paysage hallucinant, un monde c'est le début de l'enfer, quoi.
Les mines d'amiante au nord du Canada.
Ouais, où on creuse, vous avez des trous qui font 100, 200, 300 mètres de profondeur, et on continue à creuser, et on fragmente le sol. Les explosions propulsent des fragments des blocs de d'amiante comme ça qui traversent parfois les toits des maisons. C'est pas du tout fictif, ça a été la réalité pendant des années et des années. Et donc c'est un monde qui est réel, mais bon, il n'y a pas ça en France. Donc vous rentrez dans un monde qui vous permet quand même de faire vivre des gens d'une manière totalement différente, où la notion de la gestion de sa propre vie est d'une toute autre nature. Puis je sais pas, c'est vrai que quand vous survolez l'hiver, c'est quand vous passez, vous dormez la nuit, il y a plus de lumière parce qu'il y a eu des pluies verglaçantes dans tout le nord du pays, et que vous avez devant vous des arbres que vous connaissez depuis toujours, qui sont là, et puis vous commencez à entendre des craquements, et tout d'un coup, comme un grand coup de fusil, et vous voyez un arbre bicentenaire qui s'ouvre en deux sous le poids de la glace. C'est quelque chose qui vous traverse, quoi. Moi, l'hiver, c'est un truc. J'aurais rêvé de faire des films, mais j'aurais jamais pu les faire ailleurs qu'en hiver. Et dans un autre cadre que l'hiver, qui donne une dimension, qui donne je sais pas, c'est à la fois terrifiant et ça vous transporte, quoi.
Mais d'ailleurs, Jean-Paul Dubois, vous faites dire à votre Paul Hansen qu'il aime la géographie à hauteur d'homme, celle que l'on traverse à pied. Et je me demandais, en lisant justement, quand vous dites que vous avez besoin d'entendre aussi le bruit des pas dans la neige, le bruit du vent sur le sable, tous ces paysages que vous décrivez, notamment Skagen avec son église, enfin le haut du clocher du temple englouti dans le sable, c'est tellement présent, on le voit, on se l'imagine comme au cinéma. Vous les avez visités à pied, paysages?
Je vais avouer un truc que je ne devrais jamais vous avouer, je ne suis jamais allé à Skagen. Je connais pas cet endroit, et quand j'ai fait le livre, l'idée c'était de trouver l'endroit le plus au nord du Danemark, non pas. Et j'ai vu qu'il y avait une ville qui s'appelait Skagen, au bout de la pointe du Danemark, à mi-chemin enfin à droite il y a la Suède, à gauche la Norvège, et c'est la convergence des deux mers baltiques et du nord, où les éléments sont toujours déchaînés, vous avez les deux mers qui s'affrontent, vous avez le vent et tout. Je vous raconte ça en plus comme si j'y étais allé, mais le problème c'est que quand je travaille, j'ai toujours deux ordinateurs, j'en ai un où j'écris et j'en ai un où je vérifie tout, et je vais sur Skagen. Et je vois à quoi ça ressemble, je regarde les photos, les noms des rues, je fais ma géographie, parce que j'aurais pu y aller, mais ça servait à rien. Et là, je vois Skagen, l'église ensablée. C'est là où quand on fait des livres, on a besoin de plein de choses, mais surtout de beaucoup de chance et du hasard, qui sont mes deux anges gardiens, la chance et le hasard, qui m'ont toujours accompagné quand j'ai fait des livres. Je vois l'église ensablée de Skagen et je découvre l'histoire de cette église qui a été fabriqué par des pêcheurs, dans des, qui a des dimensions, je crois, de 40 mètres par 20 ou 25 de haut. Enfin, c'est un truc pour un petit village de rien du tout, qui est colossal, qui est fait dans le sable et qui, petit à petit, décennie après décennie, est attaqué par le sable, ensablé. Et tous les dimanches, les week-ends, les paroissiens désensablent les entrées, les entrées latérales, les entrées principales. Et il y a eu une tempête, je crois, c'est en 1870, je me souviens plus de la date exacte, qui là bloque tout. Ils essaient de continuer à désensabler. Et puis finalement, le clergé abandonne, vend tout aux enchères, abandonne l'église qui peu à peu est reprise par le sable. Et aujourd'hui, il reste, alors il y a la photo, moi j'ai passé, je l'ai envoyé à Olivier Cohen qui est mon éditeur pour qu'il voit ça. Vous avez une église, un escalier comme ça, qui dépasse d'une quinzaine de mètres du sable. C'est avec ça que se fabrique aussi une histoire, quoi. C'est là que le pasteur perd la, enfin, il perd pas la foi, mais dans mon idée, j'ai un mec qui a vu ça, qui rêvait d'être pasteur, qui voit ça, il perd, c'est fini, la foi, c'est un truc qui peut plus marcher.
Au fond, Jean-Paul Dubois, en vous écoutant, j'ai l'impression que vous écrivez des histoires d'abord pour vous-même, pour vous faire voyager, pour vous faire rencontrer des gens que vous auriez envie de rencontrer. Et notamment, il y a ce personnage du pasteur que vous venez d'évoquer, c'est Johannes, le père de ce Paul Hansen. C'est effectivement un être doux et désarmé qui a quitté le nord du Danemark, qui s'est marié à Toulouse avec une femme qui n'est sans doute pas faite pour lui. Et à la fin de son histoire à lui, il s'effondre en plein sermon.
Sa prédication du 14 mars 1982 fut aussi magique et vaporeuse que les précédentes. Sans doute alerté par la fraction britannique du club sur l'hérésiarque de Thetford Mines, par ailleurs en instance d'exclusion, un représentant du presbytère de Montréal était venu se rendre compte par lui-même de l'étendue de la dérive. Il repartit bouleversé par ce qu'il avait entendu d'abord et par ce à quoi il avait assisté ensuite. Ce dimanche-là, la prédication portait sur les charges et les tracas que les familles se transmettent de génération en génération. Ces histoires dont nous ignorons beaucoup, mais dont nous devons quand même accuser réception, que nous devons transporter puis grossir de nos propres peines avant de les fourguer au suivant de la lignée. Et tout cela tintinabulait dans la confusion et le chaos des fièvres paternelles, dont on sentait qu'elles étaient en train d'apurer tout, mais vraiment tous les comptes. Enfin, je voudrais vous dire ceci. C'est sans doute l'une des dernières fois que je m'adresse à vous. Je suis venu à Thetford Mines parce que, ailleurs, on ne voulait plus de moi. Et je vais repartir de cette ville pour les mêmes raisons. Par deux fois, j'ai fauté. Par deux fois, j'ai été chassé. Vous apprendrez sur moi, sans doute, des choses assez déplaisantes. Toutes sont vraies. Et une fois encore, je n'aurai rien à dire pour me défendre. Mais sachez que pendant toutes ces années passées ici, je me suis comporté comme un employé dévoué et loyal, même si ces termes peuvent sembler étranges aujourd'hui, même si prier pour moi est devenu chose impossible. Vous aurez bientôt tout le temps et le loisir de me juger et de me condamner. Je vous demande alors de conserver à l'esprit cette phrase toute simple que je tiens de mon père et qu'il utilisait pour minorer les fautes de chacun. Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. Que Dieu, s'il vous voit, vous bénisse. Johannes regarda vers la salle comme pour chercher un ami au milieu d'une foule inconnue. Il ouvrit la bouche, à croire qu'il avait oublié de nous dire quelque chose. Qu'une poignée de mots voulait encore jaillir. Puis ses mains glissèrent sur la paroi du monde, ses jambes l'abandonnèrent et il s'effondra.
Jean-Paul Dubois, ce personnage de pasteur danois, déraciné, qui fait sa vie d'abord en France, puis ensuite au Canada, il est très touchant et c'est lui, vous mettez dans sa bouche cette phrase qui donne le titre à votre livre, qui est une très jolie phrase quand on y réfléchit. Ah, ça a l'air tout à fait évident, tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. Mais en fait, ça donne aussi ce qui le relie à Paul Hansen, son fils. Ce regard porté, ce regard assez bienveillant sur les faiblesses des autres. C'était ça que vous cherchiez à donner comme lien, parce qu'il n'y a pas beaucoup de lien entre ce père et ce fils apparemment. Est-ce que c'est leur regard sur la vie qui est identique?
Ce sont des gens qui acceptent D'abord, je crois qu'il ne croit pas en grand-chose, ce qui pour un pasteur est un peu
sympathique,
singulier, mais qui pense que chacun fait le peut faire le maximum pour se débrouiller, qu'il n'y a pas de recettes, qu'il n'y a pas de règles, qu'il n'y a pas de lois. Ils ont tous les deux une forme de bienveillance naturelle en l'existence. Pas tellement dans les autres, puisqu'ils font crédit aux autres d'avoir les mêmes comportements. Et dans le livre, beaucoup, beaucoup de personnages, même secondaires ou tertiaires, ont tous cette douceur, même si c'est pas exprimé clairement, une douceur et une tolérance envers les autres. La marge d'acceptation est assez élevée. J'ai du mal à imaginer un monde comme ça aujourd'hui, quoi. Et le livre raconte un peu ça aussi. C'est le déclin d'un monde.
Ils font partie du monde ancien que le monde nouveau ne reconnaît plus.
Oui, c'est exactement ça. Et c'est un monde qui décline de sa propre fatigue et de l'incompréhension. Enfin, il n'a plus la prise qui s'adapte au secteur, quoi. C'est plus ça s'emboîte plus.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispered in the sounds of silence.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Dans ce temps de printemps, Winona volait à vue et rebondissait par instants sur d'invisibles turbulences. Elle possédait, gravée dans sa mémoire, toute la cartographie de ce territoire et, à l'image des grandes voiles de Bernache tout à leur migration, s'orientait en suivant son instinct qui l'amenait toujours où elle devait se rendre. Soudain, le lac apparut comme un acteur qui entre en scène. Elle fit ses approches coutumières entre les îles qui le parsemaient, s'aligna sur le cœur d'une balise imaginaire, toucha l'eau du bout de ses pattes et glissa en douceur vers la rive. Lorsque le moteur cessa son vacarme, on n'entendit que le clapotis de l'eau chantant sur le flanc des flotteurs. Le pont mobile, la cabane sommaire, la sacoche Nova, ses 1000 trésors, les bruits de la forêt, le vol des oiseaux, le sentiment d'être au bon endroit au moment adéquat. Le regard de Winona qui dit que c'est maintenant. Ses mains qui glissent dans mes poches, le contact de ses doigts, les miens qui s'accrochent au miracle. La friction des vêtements, le froissement des corps, le claquement des peaux. Le monde qui devient tout petit, le monde et toutes ses affaires avec ses piscines pourries et ses moyens de paiement, le monde des Suisses et celui des Danois, tout ce monde dont je vérifiais chaque jour les colonnes d'extraction, tout ce monde-là disparut aussi longtemps qu'en nous dura la lumière. Ce bref éclair illuminant la vie comme une fusée de détresse. Winona avait une manière très directe de considérer et de traiter les choses. Après avoir enfilé sa combinaison et allumé une cigarette, elle m'a dit « Quand je t'ai vu revenir ce matin à l'hydrobase, j'ai pensé immédiatement « C'est avec cet homme-là que je vais finir ma vie. » Maintenant, on embarque. Referme bien la porte et n'oublie pas la sacoche. » Durant les 11 années que dura notre drôle de mariage, je ne pense pas avoir cessé d'aimer Winona Mapachi, ne serait-ce que le temps d'une respiration. Depuis cette journée au bord du lac, elle est devenue une part de ma chair. Je la porte en moi. Elle vit, pense, bouge dans mon cœur. Et sa mort n'y a rien changé.
Jean-Paul Dubois, c'était le portrait de Winona Mapachi qui va être la lumière dans la vie de Paul Hansen. Et on parlait de cette façon d'habiter le monde des uns et des autres. Elle, avec sa culture d'amérindienne, elle a une manière d'habiter le monde qui va permettre justement à votre personnage de trouver une place à peu près harmonieuse dans un monde à peu près équilibré. Il y a dans cette culture, là vous parlez du peuple algonquin, mais il y a dans la culture des Amérindiens justement quelque chose qui fait partie du monde ancien et qui semble être devenu absolument indispensable à un certain nombre de gens pour vivre aujourd'hui, pour survivre peut-être aujourd'hui. Vous avez étudié cette philosophie amérindienne?
Ben oui, j'ai essayé de m'imprégner d'un monde qui est pas le mien. Je vais pas jouer aux Indiens, mais j'essaie de comprendre ça. J'ai rencontré des gens qui ont travaillé pendant, mais pas pour le livre, hein, par goût, par amitié, des gens qui ont travaillé et qui m'ont fait découvrir une autre approche de la vie, du monde, du rapport aux autres. C'est pas aller découvrir, c'est aller comme ça, puis Vous découvrez que vous aimez, voilà. Vous comprenez pourquoi les choses se font d'une manière et pas d'une autre. Pourquoi la forêt a un autre sens pour eux que pour nous.
Pourquoi vivre avec les morts est une chose absolument évidente.
Voilà, c'est normal. Mais ça, on le retrouve très souvent. Enfin, dans beaucoup de peuples justement qui n'ont pas qui sont pas proches de la culture occidentale. Vivre avec les morts, là, c'est quelque chose. Il y a une chose qui est magnifique, c'est les morts qui partent avec leurs outils. C'est-à-dire que quand j'ai appris, moi, je savais pas ça, que dans les sépultures, si vous avez une aptitude quelconque, on vous enterre, on vous brûle, mais avec vos outils. Moi, quand on m'a raconté ça, je me suis dit, voilà, c'est à la fois, moi, j'aime ça parce que je retrouve mon côté, le côté gris-gris, enfantin, mais je crois aux choses, je crois à ces choses-là. Je sais pas vous expliquer comment. Et la première question que je me suis posée, c'est que si je pars avec mes perceuses, quelle va être de l'autre côté la prise sur laquelle je vais pouvoir les brancher, quoi. Et ça, c'est l'homme blanc, vous voyez. L'homme blanc, il va penser à ces conneries-là. C'est-à-dire, moi, j'ai pensé à ça. Le premier truc, c'est pas idiot, mais ça n'a aucun sens. Et je trouve bouleversant l'idée de partir. Moi, j'ai pensé à mon père qui partait, qui serait parti avec sa caisse à outils qu'il aimait par-dessus tout. Et j'imaginais j'aurais aimé lui filer ses outils, quoi. Et donc, c'est une autre approche. Là aussi, vous avez une forme de douceur. Alors, je vais pas vous dire, je vais pas faire le truc idyllique des algonquins qui ne sont que douceur et nous ne sommes que brutalité. Mais il y a une approche douceur, il y a une forme aussi de l'éducation par l'apprentissage dans un monde réel. Quoi.
Et d'ailleurs, vous citez une jolie formule d'un anthropologue qui est
Bouchard.
Voilà, Bouchard, qui est spécialiste des Amérindiens et qui dit l'homme est un ours qui a mal tourné. Ouais. C'est une phrase typiquement indienne, ça. L'homme blanc est au fond est un ours qui a mal tourné.
Et son autre phrase, c'est l'homme descend de l'ours.
D'ailleurs, ce Paul Hansen, qui vous ressemble en ce sens qu'il aime bien comprendre comment les choses fonctionnent et qu'il se bagarre jusqu'à les réparer, jusqu'à parvenir à les réparer. Au fond, on se dit que si vous n'aviez pas été écrivain, vous auriez adoré le genre de boulot que vous avez donné à Paul Hansen, là. Faire fonctionner un énorme ensemble et s'occuper des gens qui l'habitent.
Réparer
tout.
Réparer, c'est... Ce livre-là s'est fait de lui-même il y a 15 ou 20 ans, quand j'ai rencontré le personnage qui existe, l'immeuble qui existe, cet homme qui est un type tout ce qu'il y a de plus commun dans le métier, dans le comportement, l'attitude, et qui pendant 30 ans ou 25 ans a assuré le bien-être de 68 propriétaires d'appartements, leur a rendu la vie facile en se levant tous les matins, en allant surveiller les détails des machineries, réparant ce qui ne marchait pas, accompagnant les malades, allant faire la course des gens trop vieux, les courses des gens trop vieux quand le sol est verglacé, assistant les mourants. Enfin, c'est un truc, c'est une vie. Quand cet homme m'a raconté, parce qu'on est devenus copains, c'est le gardien de l'immeuble dans lequel ma femme habitait. Et donc, j'aimais cet homme, quoi. C'était un type qui était hors du commun. Parce qu'il a une vie hors du commun, mais elle se voit pas, cette vie-là. Je pense qu'il y a plein d'autres gens comme ça. Mais son appartement qui est au rez-de-chaussée donne sur le boulevard, et de l'autre côté de son appartement et du boulevard, il y a un arrêt de bus. Et dans l'immeuble, il y avait une dame qui était Alzheimer, et qui le soir traversait l'appartement, traversait le hall de l'immeuble et allait s'asseoir à l'arrêt du bus en chemise de nuit. Quand il fait moins... Ah, vous faites ça à Toulouse, c'est pas grave. C'est sans rejoindre la conversation du début. Mais vous faites ça à Montréal, où il peut faire des moins 20, moins 25, des moins 30 la nuit. Ça a une autre, d'autres incidences. Alors lui, il regardait, toujours avant de se coucher, s'il y avait quelqu'un de l'autre côté, comment ça se passait. Et il allait chercher cette dame, la porter, la ramener chez elle. Et voilà. Et il faisait des choses comme ça. Mais naturellement, c'est pas dans son cahier des charges. Ni d'assister les mourants, ni d'aller faire des courses des gens malades ou... Mais il est comme ça. Et quand je lui disais, mais putain, comment tu peux faire tout ça? Il me dit, parce que je me rends compte qu'au fil du temps, tous ces gens, même parfois les plus désagréables, au bout de 30 ans, je les aime. Et voilà. Alors ça a l'air court, une phrase comme ça. J'en ai tout à fait conscience. C'est bené, c'est tout ce que vous voulez. Mais c'est vrai, quoi. C'est-à-dire, ça s'est passé comme ça. Il a vécu comme ça.
C'est le métier de Paul Anselme.
Et le livre se fait à partir de cet homme. Ouais. Voilà.
Et naturellement, comme dans tous vos livres, il y a un Paul et il y a toujours un chien.
Nook ne fut ni louve ni chienne d'apparat, mais un merveilleux animal. Subtil, curieux de découvrir et d'apprendre le monde. Attentif à nos peines devinées avant même d'être ressenties. La chienne devint très vite une part indissociable de notre vie, où elle s'intégra avec une aisance stupéfiante. Nook mangeait avec nous, regardait un film avec nous et dormait à nos côtés après avoir tourné 4 ou 5 fois sur elle-même, ainsi que le lui avaient appris ses ancêtres, soumise aux règles de l'espèce et aux lois de la forêt. Le soir, tandis que nous attendions le retour de Winona, Nook venait tout près de moi et glissait son museau entre mon bras et mes côtes flottantes. Et dans ce repère sombre où rien ne pouvait arriver, qu'elle seule connaissait, elle me faisait comprendre tout un tas de choses que les hommes ont souvent beaucoup de mal à dire. Parfois, elle entr'ouvrait un œil vers moi, juste pour me prévenir que maintenant, elle allait se taire et faire un petit somme. Il y avait tellement de conscience et de loyauté dans ce petit animal qu'au fil du temps, je pris l'habitude de m'adresser à lui exactement comme à un humain, lui faisant partager le rythme et l'encombrement de mes journées. Et le plus étonnant, c'est que cela n'avait rien d'incongru. Je débloquais dans mon coin, et Nook m'écoutait et à sa façon me comprenait. L'effort qu'elle avait sans doute consenti pour décrypter le sabir des hommes, je le fis à mon tour pour déchiffrer toutes ces sortes d'aboiements et lire son langage corporel. Comme en toute chose, passé le temps d'apprentissage, je parvins à un résultat assez satisfaisant qui nous permit de traiter des choses essentielles de la vie courante, puisque nous parlions maintenant la même langue. Elle lisait en moi à livre ouvert. J'étais attentif à elle, multipliant les gestes de tendresse comme on le fait naturellement quand on aime quelqu'un.
Jean-Paul Dubois, ce qu'il y a de formidable dans ce livre et dans l'histoire de Paul Anselme que vous avez écrite, c'est qu'en fait, on se rend compte, enfin, je m'en suis rendu compte en tout cas, qu'il n'y a aucune description de votre personnage. Paul Anselme, on ne sait pas quelle taille il a, comment il vit, comment il s'habille, mais on le connaît intimement dans la manière qu'il a de parler des gens qu'il aime ou des gens qu'il déteste. On a entendu ce qu'il disait de sa femme Winona. Il y a dans le livre aussi la description de son voisin de cellule, de son coloc. Il y a la description de ce chien. Et en fait, Paul Anselme est comme un miroir sur lequel tous les gens, les lieux, les choses qui se déroulent dans sa vie se reflètent sur lui. Et on apprend, on a l'impression de le connaître intimement dans la manière qu'il a de parler des autres, des choses. Quand vous écrivez ce personnage, vous avez conscience que vous faites ça, ou bien c'est quelque chose qui émerge tout d'un coup de votre écriture ?
Non, j'ai conscience de, absolument de rien. C'est quelque chose de vraiment naturel. Un livre, c'est pas quelque chose que je construis. C'est un bavardage. C'est la voix off. C'est un film. Et je vois les gens. Horton, qui est le colocataire, j'ai passé le temps du livre. Sont des gens qui ont une. Souvent, ce sont des gens réels déjà. Ce sont des gens que je connais, que j'ai rencontrés, qui sont très proches et qui ont pour moi une réalité. Donc quand je les raconte, c'est comme si quand le micro s'éteint tout à l'heure, je vous parle de ma chienne. Voilà. Je vais vous en parler parce qu'elle existe. Je vais pas vous la décrire dans un livre. Je ne peux vous raconter des choses dans un livre qui n'ont une chair et une réalité pour moi.
Eh bien, dans ce livre, tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. On suit effectivement la vie de Paul Hansen avec passion, Jean-Paul Dubois. Ce livre est absolument magnifique et il n'y a pas un seul point virgule dedans. Vous détestez les points virgules, ça m'a beaucoup troublé.
Ah ouais, c'est un truc. C'est-à-dire le point virgule, le point de suspension, c'est comme le coup. C'est le mec qui vous raconte une blague et qui vous donne le coup de coude. T'as bien vu là. Là, il y a une blague. Alors, le point de suspension, c'est une horreur, mais le point virgule, je m'en prends au point virgule dans la déclaration d'indépendance du Québec. C'est une déclaration qui est hallucinante et qui contient 4 points virgules sur 10 lignes. C'est-à-dire, ça ne veut rien dire. C'est dans un texte politique comme ça, le point virgule, ça casse tout, quoi. J'en ai discuté avec les Québécois, mais ça les a fait bien marrer, c'est vrai. Je comprends pourquoi il n'y a eu que 43% de Québécois qui, ce jour-là, ont voté pour un texte pareil.
À cause du point virgule. On va faire passer le message aux gens du G7. Merci en tout cas infiniment d'être venu nous voir ce soir, Jean-Paul Dubois. Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. Ça vient de paraître aux éditions de l'Olivier, évidemment. Au revoir.
Au revoir et merci beaucoup.
Nous nous retrouverons la semaine prochaine aux environs de 19h20 et bien sûr après les informations de 20h, vous avez rendez-vous avec Xavier Le Verpeur pour une heure en série. Très bonne soirée à l'écoute de France Inter.